nous avons l'honneur d'accueillir Marc Astoin, qui est jésuite et qui habite rue Blomé à Paris. Il est enseignant au Centre Sèvres, plutôt sur la Bible, voilà, bibliste, spécialiste de Saint-Paul, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, il connaît très bien Rome, parce qu'il y donne des cours, il étudie aussi. Et il va nous parler de Cléophas, qui est l'un des deux témoins d'Emmaüs dans l'évangile de Luc. Je ne me souviens plus le chapitre.
Le dernier chapitre de Luc.
26. Non, c'est pas ça.
24. 16 dans Marc, 24 dans Luc, 28 dans Matthieu. Première année.
Donc je lui laisse la parole pour ne pas raconter trop de sornettes.
Et donc par ailleurs, j'ai un blog cinéma et littérature dans lequel vous trouverez aussi une liste de livres à lire quand j'étais étudiant que j'avais fait pour frère aîné de Florence quand il était à l'ENSAE, voilà. Paul. Après il y a des livres sur la foi, des livres sur la Bible, livre pour les fiancés, bon, ça concerne un public précis. Et puis voilà. Donc allez faire un tour. Voilà. Je suis monté très très fort pendant le confinement, ça a un peu baissé depuis. Bon, voilà, très bien. Alors j'ai réalisé, donc je vais vous partager en fait, donc je fais de la recherche essentiellement depuis 2007 à Rome. Donc, j'essaie de publier un article dans une revue de rang 1 ou plus. Non, enfin, rang 1, par an, que quand j'arrive à Rome. C'est-à-dire que, comme je dis, à Paris, je ne travaille pas, je fais plein de choses. Enfin, je suis directeur du 3e cycle, avec des cas de plagiat à gérer en ce moment. Bref, passons sur ces détails douloureux. Et donc, je fais mes cours, mon séminaire, des choses à gauche, à droite. Et à Rome, vraiment, j'ai mes 6 semaines dans lesquelles, voilà, j'ai la bibliothèque du biblique, qui est l'une des meilleures au monde, et j'essaye de pousser des intuitions, voilà, des intuitions de recherche. Certaines étant des questions que j'avais depuis très jeune. L'exemple que je prends, mon premier article en 2002, c'était quand Jésus dit à Simon-Pierre en Matthieu 16, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon père qui est aux cieux. » Je dis « Jonas, mais à la fin de Jean, c'est Simon, fils de Jean. » Il s'appelait comment son père alors? Jean ou Jonas? Parce que Yona, Yohanan, c'est différent en hébreu. Quel est le... Donc j'ai essayé de bâtir une hypothèse où, après coup, le cardinal Vanois m'a dit « Mais... c'est bien. Vous avez regardé les pères de l'Église sur la question ?» Je dis « Non. Bah, allez faire un tour. Hein. » J'ai vu que j'avais de mon côté Jean Chrysostome, Bède le Vénérable. Enfin, j'avais plein de Bollinges qui avaient eu la même idée que moi. Mais dans les commentaires modernes, ce n'était même pas dit que Yona veut dire colombe et donc ça veut dire fils de l'Esprit-Saint. C'est allusion au baptême. Bref, donc à temps en temps, vous avez des questions. Alors là, c'est la finale de Luc. Et il se trouve que depuis 15 ans, j'ai surtout travaillé sur Luc Acte. Alors Luc, comme vous savez, c'est un Paulinien. De temps en temps, dans les sciences, dans les sciences littéraires, la Bible c'est aussi un travail littéraire, quand 100% des gens sont d'accord, c'est bien, c'est assez rare, donc on prend. Donc il y a un point, donc Luc a écrit l'évangile de Luc et les actes, tout le monde est d'accord, enfin Luc ou l'auteur, peu importe, appelons-le Luc, et Dezio, c'était un Paulinien. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est bien, on comprend. Donc, je vais essayer de situer un peu le contexte de la fin du 1er siècle, voilà. Je me situe dans une hypothèse assez standard. Luc est écrit vers 95, entre 90 et 100. Je suis plutôt 95-100, personnellement. C'est-à-dire à peu près en même temps que l'évangile de Jean, et nettement après Marc et Matthieu. Alors, quel est le grand problème des chrétiens? Je fais des trucs très généraux, parce que vous n'avez peut-être pas quelques heures de vol en introduction au Nouveau Testament. La grande question qui divise, enfin, la grande question des chrétiens au 1er siècle, bon, il y en a quelques-unes, des différents courants chrétiens, tournent autour de la question qui est apôtre? Qu'est-ce qu'un apôtre et qui est apôtre? Alors c'est aussi lié évidemment à des questions pratiques. Vous avez, ça vous le savez, des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens, mais vous pouvez avoir des judéo-chrétiens comme Paul qui sont très proches ou qui vivent et qui évangélisent en milieu païen, comme Paul en Grèce, et vous pouvez avoir des païens convertis qui peuvent être plus royalistes que le roi. Ça arrive encore aujourd'hui. J'ai rencontré un ancien moine devenu juif récemment, qui a été baptisé, si je puis dire, par le rabbin Corsia, grand rabbin de France. Donc vous pouvez être... vous voyez, ça ne recoupe pas les origines ethniques nécessairement. Mais disons, deux grands groupes, les judéo-chrétiens essentiellement en terre d'Israël, évidemment, Judée, Galilée, Samarie, et puis les chrétiens de langue hébraïque et plus en monde... grec, essentiellement, vers la Grèce, l'Asie mineure, Chypre, Alexandrie, etc. Et donc, pour faire simple, vous avez, essayons d'être très résumé, vous avez quatre grands courants qui se revendiquent de quatre grandes légitimités. Donc vous avez les, ceux qu'on appelle les pétriniens, ou ceux qui se revendiquent des douze, les douze apôtres, les douze. On dirait ils sont onze, parce que d'accord, mais enfin, bien, les douze, ils sont douze, soit que l'un a été remplacé ou pas, on va y revenir. Les douze, donc, qui est apôtre? Ce sont des Galiléens qui ont été choisis personnellement par Jésus, en personne, persona personalmente, hein, au bord du lac, depuis le baptême par Jean jusqu'à à la Passion. D'accord? Donc le critère, d'ailleurs, donné par Luc au début des Actes.
Jusqu'à la résurrection.
Jusqu'à la résurrection, exactement. D'où le critère donné par Luc au début des Actes, ceux qui nous ont accompagnés depuis le baptême par Jean jusqu'à aujourd'hui. Ce qui exclut Paul, ce qui est un peu curieux pour Luc, donc je vais revenir sur ce problème. Ensuite, vous avez les partisans de Jacques, frère du Seigneur. Bon, alors là, si vous êtes catholique orthodoxe, vous dites que c'est quelqu'un qui venait d'un premier mariage de Joseph, en tout cas, c'est quelqu'un qui est de la famille de Jésus, c'est un Galiléen, qui ne fait pas partie des douze, et comme on le sait par l'évangile de Marc et tout, ils n'ont pas reconnu, suivi Jésus au début. Donc, c'est des gens qui se sont convertis après. Mais il y a eu une apparition à Jacques que Paul nous raconte aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 15, donc dans les années 50. Jacques, frère du Seigneur, qui va devenir évêque de Jérusalem. Et puis ensuite, on a deux grands, on va dire, deux grands courants dans le monde grec et Asie mineure, le monde grec à l'époque, ceux qu'on appelle les Pauliniens, qui disent, nous, notre grand apôtre fondateur, c'est Paul de Tarse, mais il n'était pas Jérusalem à la résurrection. Jésus lui a paru en direct, un truc méga extraordinaire, je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment, il est apôtre, pas très bien. Et il dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu ophté? Est-ce que Jésus ne s'est pas donné à voir à moi ?» 1 Corinthiens 15, « Il est apparu à Pierre, aux 12, 500 frères, à Jacques, aux autres apôtres. Et puis, il s'est donné à voir à moi. » Donc, Paul dit, « Je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Vraiment, j'ai persécuté, je suis un... » Mais quand même, mais, je ne mérite pas, mais je le suis quand même. Excusez-moi. Bon. Et puis, les Johanniques. Alors, les Johanniques, a priori, depuis 100-150 ans, on pense que c'est plutôt un homme qu'on appelle Jean l'Ancien, d'après Papias, c'est-à-dire, vous voyez l'évangile de Jean, on est toujours, il laisse entendre que c'est quelqu'un qui connaît Jérusalem, puisqu'il connaissait la famille du grand prêtre, le disciple que Jésus aimait, bon, est-ce qu'il est des douze, où est le cercle, on ne sait pas trop, mais enfin, tout est calculé pour qu'il est au plus proche de Jésus et des apôtres, tout en étant apparemment jérusalémite, et voilà, différent. Alors, ce Jean l'Ancien serait à l'origine de la tradition de l'évangile de Jean. Donc, voilà un peu l'enjeu. Qui est apôtre? Ces différents courants chrétiens. Et donc, il y a un enjeu, au fond, sur la constitution du canon du Nouveau Testament. Et le truc, vraiment, c'est une chose à retenir juste ce soir, c'est un truc absolument merveilleux, c'est, au fond, cet incroyable proto-œcuménisme qu'il y a eu à la fin du 1er siècle, où ces groupes, qui étaient quand même des petits groupes de gens zélés, qui avaient des pratiques différentes, parfois des langues différentes, se sont mutuellement reconnus les uns les autres, et qui ont fait qu'on a eu assez vite, en réalité, moi je vais faire une hypothèse, pour Tadeau, ça a eu des discussions énormes sur les évangiles, dedans, dehors, ça s'est fait assez simplement, se sont reconnus les uns les autres, et ont reconnu les écrits les uns des autres. Y compris quand il y avait des différences. Des différences qui, parfois, nous embêtent un peu. Et vous avez un théologien catholique que vous connaissez tous, je suis sûr que vous connaissez tous, s'appelle Joseph Ratzinger, qui a écrit deux volumes sur Jésus, dans lequel, bon, voilà, il dit, ben, la scène, il y a la chronologie de Jean, la chronologie des synoptiques, laquelle est la bonne, on réfléchit, bon. Bon, alors, le Notre Père, il y en a combien? Il y en a deux. Luc, 5 demandes, Matthieu, 7 demandes, lequel est le bon? C'est comme dire le récit de la création, Genèse 1, Genèse 2, lequel est le bon? Il y en a deux. Bon, les béatitudes, il y a Matthieu, il y a Luc, pareil. Bon, il y a des différences chronologique, de caractère, d'expression, le Jésus de Jean ne parle pas comme le Jésus de Luc ou de Marc, etc. Donc, ils se sont reconnus les uns les autres. Et dans mon, enfin dans mon hypothèse, ce n'est pas moi, mais enfin, la finale de Luc est clairement un travail tout à fait particulier. Alors, Emmaüs, c'est le chef-d'œuvre littéraire, théologique de Luc. Ça va, vous connaissez le disciple d'Emmaüs, hein, je ne vais pas vous redire l'histoire. Là, Luc, il met tout ce qu'il a. Quoi. Alors déjà, Luc, c'est un super écrivain, c'est un grand historien, et c'est un magnifique théologien. Là, il envoie tout ce qu'il a. Quoi. Alors, là, je suis de ceux, je m'inspire tout en distinguant un peu de Jean Malaletti, mon docteur Fateur, Luc, si vous voulez, qu'est-ce que Luc utilise pour travailler dans ce qu'on appelle la théorie standard, qui est un enseignant majoritaire maintenant depuis 100 ans dans la recherche. C'est-à-dire que Matthieu et Luc, pour écrire leur évangile, ils ont deux sources principales, qui sont l'évangile de Marc, que Matthieu reprend à 96%, Luc à 85%, parfois en changeant les mots, mais les mêmes épisodes, ils reprennent. Et ils ont en commun un paquet de matériel, parfois dans le même ordre, avec les mêmes mots grecs, dont les béatitudes de notre Père et plein d'autres choses, que par hypothèse des Allemands du 19e, on appelle la source des logia ou la source Q, Quelle, Quelle pour dire source en allemand, donc la source Q en français c'est la source-source, c'est un petit peu pléonastique, qu'on n'a jamais trouvé, mais qui par hypothèse contient tout ce qui est dans Matthieu et Luc, qui n'est pas dans Marc. Et puis ils ont leur bien propre, c'est-à-dire ce qu'ils ajoutent d'eux-mêmes. Alors, Luc a trois grands piliers, il y a trois scènes qui sont les trois piliers porteurs de son évangile. C'est Luc 4, Luc 15 et Luc 24. Donc, Luc 4, c'est la synagogue de Nazareth. Jésus dans sa synagogue. Et là, vous êtes Martin Scorsese, vous êtes en temps réel caméra. On tendit le livre à Jésus. Jésus prit le livre, il ouvrit le livre, il trouva le passage où il est écrit. Il commença à lire là, tout ça. On est en direct, et on lit le passage, donc en analyse littéraire, on est en temps réel. Après, quand vous dites, il passa 6 mois dans une région, ben là, en inversé, vous avez 6 mois. Là, vous êtes, on est, et vous avez tout l'évangile, hein, on le menace de mort à la fin, et il dit, voilà que s'accomplit cette parole, vous avez toute la christologie prophétique de Luc, vous avez cette grande ouverture solennelle, où vraiment Jésus apparaît en pleine lumière, grand pilier ignatien. Au centre de l'évangile, vous avez Luc 15, la parabole du fils prodigue, extraordinaire. Alors ça, c'est un papier que j'ai fait en 2015, je pense. D'où vient la parabole de l'enfant prodigue? Alors, beaucoup de vos bibles vont présenter ça comme quelque chose qui se trouve que dans Luc. Là, je dois avouer très honnêtement, je suis minoritaire, hein, complètement minoritaire sur cette question. J'ai quelques collègues éminents, une exégète allemande qui s'appelle Louise Schottroff et d'autres. Et j'ai eu une correspondance avec John Mayer, donc historien catholique américain là-dessus, parce qu'il a sorti son livre sur les paraboles il y a 4-5 ans, dans lequel il, à la fois il me cite et en même temps il ne me reprend pas, donc j'ai dit bon, il n'était pas convaincu par mon argumentation. Il se trouve qu'il y a deux paraboles dans tous les évangiles qui commencent par « un homme avait deux fils ». Il y a celle qu'on connaît tous, très bien Luc, et il y en a une dans Matthieu 21. Hein. « Un homme avait deux fils, il dit au premier, va travailler à la vigne ». Le premier répondit « Non ». Puis, virgule, pris de remords, il y alla. Il dit au second la même chose. Celui-ci répondit « Oui, mais il n'y alla pas. Lequel des deux, selon vous, a fait la volonté du Père ?» Le premier, lui répondirent-ils. Et alors Jésus fait le nimshal, l'explication de la parabole. « Alors, voilà, les prostituées et les publicains, eux se sont convertis, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas allés vous faire baptiser par Jean ?» etc. Alors je défends l'idée que Luc 15 n'est pas une création de Luc qui s'est réveillé un matin en disant « Tiens, je vais écrire une jolie parabole hellénistique sympathique. » Il a vu cette parabole de Matthieu dans la source des Logia, c'est mon hypothèse. Il s'est dit cette parabole, comme toutes les paraboles juives de l'époque, est une parabole très schématique. Voilà, il n'y a pas de cochon, d'anneau, de prostituée, il se dit en lui-même, enfin tous ces dispositifs hellénistiques. Et Luc va créer à partir de ça, il se dit « Mais ce verbe-là, pris de remords, je vais mettre un peu de chair. » Là, on va voir les choses. Donc, il a embelli, enrichi, avec le thème de l'héritage, et avec tout ce dispositif qui ressemble au roman hellénistique de l'époque, une magnifique parabole. C'est l'esprit de Jésus qui l'a inspiré. Et on arrive à Emmaüs. Alors, Emmaüs, mon problème, c'est que le texte d'Emmaüs, donc déjà, c'est complètement lucanien. Il n'y a pas d'autres exemples dans le Nouveau Testament, parce que la finale canonique de Marc, hein, Marc 16, 9 à 20, a priori, est une synthèse début 2e siècle qui synthétise la finale de Luc. Jean et Matthieu, hein. A priori l'évangile de Marc finissait par les femmes ne disent rien à personne car elles avaient peur, on pourrait m'interroger là-dessus si ça vous intéresse, j'ai pas mal travaillé ça cette année. Donc Luc finit par cette scène complètement lucanienne, et dont le héros c'est Cléophas et son compagnon. Et là, comme toujours, je dis, les enfants du catéchisme de 8 ans posent les bonnes questions, ils disent mais Cléophas c'est qui? On l'a vu avant dans l'histoire? Ben non. Et dans les actes des apôtres, il va avoir un rôle important? Ben non, en fait. Et l'autre, c'est qui? Ben, on ne sait pas. Ben, quand même, feu d'artifice incroyable! Ils reviennent à Jérusalem. C'est vrai, il est apparu à Simon-Pierre. Tu ne racontes même pas l'apparition à Simon-Pierre. Alors, il la mentionne. Il ne la raconte pas. Et il raconte l'apparition à un illustre, inconnu, a priori. Cléophas, c'est qui? Pour mériter le technicolor total. Alors, ce que je n'avais pas réalisé... Alors, il y a deux questions subsidiaires. Il se trouve qu'au pied de la croix, dans l'évangile de Jean, en Jean 19, 25, il y a les quatre Maries. Ça va? Donc il y a Marie, mère de Jésus, Marie de Jacques, et Marie de Cléophas. En grec, il y a des gens ici qui comprennent, il y a omicron, enfin epsilon omicron d'un côté et oméga de l'autre. Il y a Cléophas ou Cléophas. Donc la grande question, c'est est-ce un nom différent? Et jusqu'à une époque récente, c'est un de mes points de départ, on disait que c'était différent. Alors l'hypothèse que je vais vous proposer, je la propose en m'appuyant entre autres sur, enfin en utilisant les travaux de deux auteurs relativement récents, donc Richard Baucam, qui est un exégète très connu dans le monde anglo-saxon, qui est professeur à St. Andrews en Écosse, qui a écrit deux livres capitaux dans les dernières années, Jésus et les témoins oculaires et Un évangile pour tous les chrétiens. Et l'autre, c'est une chercheuse israélienne qui est professeure à Berlin, à la Freie Université de Berlin, qui s'appelle Tal Ilan. Personne n'a fait de l'araméen, Dieu l'hébreu ici. Tal Ilan, la rosée du chêne. C'est un nom typiquement israélien. Et elle travaille depuis 20 ans, elle a fait une onomastique juive de moins 600 à plus 600. Donc, tous les récits où il y a des juifs, les tombes, les manuscrits, les papyrus, la Geniza, tout ce qu'on peut trouver, elle organise ça par région, par période, avec des classifications. Et elle a fait tomber un argument qui était de dire Cléophas, Cléophas, au fond, c'est un nom assez répandu. Ben, en fait, chez les Juifs, non. Et, alors là, je vais peut-être vous surprendre, peut-être vous l'aviez compris tout de suite, moi, je n'avais jusqu'à 3-4 ans pas réalisé que Cléophas, c'était Cléopâtre, c'est-à-dire Cléopâtre. Ben, moi, je n'avais pas compris. J'ai jamais percuté que Cléophas, c'était... C'est-à-dire Kleien, en grec, Kleien, et Pater, Kleien. Donc c'est briller, illuminer, Kleien, donc la gloire de mon père. Alors il y a un exégète qui s'appelle... voilà, exactement. Il y a un exégète de McDonald's, voilà, Denis McDonald's, un maverick, comme on dit dans les sciences, bon, qui depuis 20 ans fait une œuvre assez incroyable, où il regarde l'arrière-plan grec des évangiles. Et alors il dit, mais Emmaüs, c'est une grande scène de reconnaissance, d'anagnorisis, c'est-à-dire la grande scène de la littérature grecque. L'exemple quintessentiel, Ulysse à Ithaque. Donc Ulysse arrive à Ithaque, il y a le chien, le serviteur, la servante et sa femme, Pénélope, à la fin. Donc la question c'est, comment Ulysse va être reconnu, anagnorisis. Et la question dans Emmaüs, c'est comment ils vont le reconnaître, à quel signe vont-ils le reconnaître. Et ce monsieur McDonald, il dit... regardons un peu comment s'appelle la servante d'Ulysse. Elle s'appelle Euryclée, Euryclée, Cléienne, même racine. Et le serviteur, il s'appelle Emmaüs, qui est très très proche de Emmaüs dans le texte. Mais voilà, gigantesque clin d'œil littéraire de Luc à Homère. Et donc c'est une scène complètement inventé, selon lui, sans aucun fondement dans le réel. Voilà, on est là, bon, quand même, vraiment, vous croyez, Luc, comme ça, à la fin, il se réveille un matin, il dit, ouais, je vais faire une anagnorisis. Un truc, mais comme vous en avez jamais vu ça, ça va être extraordinaire. Je m'inspire d'Homère, et alors, avec d'autres, je dis, ça m'intrigue un peu. Est-ce qu'on peut trouver un sens à cette personne? Voilà, alors, en commentant Emmaüs, je cite un grand exégète suisse francophone, François Beauvon, mais qui a enseigné les 40 dernières années à Harvard. Hein. Il y a deux raisons qui parlent contre le fait que l'évangéliste Luc ait complètement inventé cet épisode. La première, c'est que le récit a les caractéristiques d'une littérature orale originale, bon, le style oral. Ça se discute parce que c'est super travaillé quand même, le texte même. Mais surtout, la question, c'est, il dit, normalement, dans Luc, L'étude des efforts rédactionnels de Luc montre que Luc interprète les mémoires qu'il a reçues de la tradition, mais qu'il ne crée pas complètement de nouveaux épisodes. C'est pour ça que je vous ai raconté les deux piliers, parce que le pilier de la synagogue de Nazareth, si on dit à Luc, mais attends, cette histoire-là, Jésus, la synagogue, de toute façon, ben, relisez Marc 6, 1, 6. Jésus alla dans sa patrie, il ne fut pas reçu dans la synagogue. Vous avez tout dans Marc 6. Donc. En fait, Luc va dire très tranquillement, les amis, j'ai juste mis un petit peu de... Voilà, Paul Scorsese, Clint Eastwood, j'étais un peu dans la scène, mais voilà. Et si on dit, mais enfin, le fils prodigue, vraiment, t'as rajouté les cochons, les prostituées, l'anneau, la fête, faut arrêter. Bon, j'ai mis un peu des détails pour faire couleur locale, mais si vous regardez le cœur de l'histoire, c'est exactement le même sens. Est-ce que les pharisiens, le fils aîné, va rentrer? Est-ce qu'ils vont reconnaître la conversion du fils cadet? Donc, je respecte complètement l'esprit dans lequel Jésus a raconté la parabole d'un homme avec deux fils. Donc, le nom Cléophas intrigue. Plusieurs options s'offrent au lecteur. Ce nom est-il significatif? Correspond-il à une source historique connue du seul Luc? Comme d'ailleurs le nom du village, également rare et énigmatique, et qui ne correspond pas exactement... Enfin, ils iraient à Bethléem. À Bethléem, on connaît, ça aurait été un bouclage merveilleux, machin. Bon. C'est pour ça, par exemple, qu'on pense que Paul est né à Tarse. Ce que nous dit Luc. Paul ne dit jamais où il est né. Bon. On aurait lu dans Luc et Paul qui était né à Bethléem. On dit, non, Luc... Enfin, t'es gentil, mais enfin, non, quoi. Voilà, je suis avec Bethléem, ça suffit. Je sais que Paul fait tout comme Jésus, guérit, ressuscite les morts, égale malade, enfin, faut pas pousser non plus. Or, en fait, de fait, Tarse, ça n'a aucun intérêt, si je puis dire. Il pourrait être Antioche, Alexandrie, Tarse n'importe. C'est une ville connue pour sa philosophie, pour ses écoles, bon, pour sa communauté juive, mais pour rien de spécial, ça n'importe rien aussi. Emmaüs, on dit oui, alors les gens disent oui, alors il y a un texte des Maccabées dans lequel il y a une victoire des Asmonéens contre les Grecs. Ouais, très bien, et alors enfin, bon, qu'est-ce que ça rajoute au récit? Donc les travaux les travaux des dernières décennies ont montré qu'au fond, dès qu'à la fin des lettres du Nouveau Testament ou des noms qui sont mentionnés dans les évangiles, les noms ne sont jamais là au hasard. C'est des questions de légitimité, de reconnaissance, de clin d'œil. Voilà, Marc te salue, Luc ce cher médecin, il y a des noms qui sont donnés. Vous voyez, quand, par exemple, Marc, vous savez, quand Jésus, on va l'entendre d'ici peu, hein, il réquisitionnait un certain Simon de Cyrène pour porter sa croix. Alors, il lui dit, le père d'Alexandre et de Rufus. Son chien s'appelait Médor, enfin, quel rapport avec le Schmidblit? Ben, très bien, mais c'est capital, ce petit détail. C'est capital. Mais ça veut dire, pour que Marc écrive ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le père d'Alexandre et de Rufus, que vous connaissez, pas besoin de préciser. Ça veut dire quoi? Ben, qu'ils sont chrétiens. Et pourquoi ils sont chrétiens? Ben, parce que Simon de Cyrène est devenu chrétien. Et comment il est devenu chrétien? Ben, il est devenu chrétien parce qu'il a porté la croix de Jésus. Mais alors, il n'a pas vu le miracle, il n'a pas entendu les signes, il n'a pas entendu Jésus parler. Le simple fait d'avoir porté la croix de Jésus pendant quelques minutes a fait de lui un chrétien. Les amis, vous aussi, vous pouvez devenir chrétien. Vous voyez, donc, de la part de Marc, c'est puissantissime ce petit détail. Oui, le père d'Alexandre, Dreyfus, curieux. Ben non, c'est pas curieux du tout, c'est très important. Donc, les noms ne sont jamais donnés au hasard. Alors, en fait, donc, c'est une vieille question, Emmaüs. J'essaye, je fais un peu polar, mais bon, en fait, le débat est dur depuis les pères de l'Église. Qui c'est Cléophas, etc. Pourquoi Emmaüs? Et donc, jusqu'à il y a, je pense, une dizaine, quinzaine d'années, avant les travaux d'Ilan et de Baucam, le consensus global que moi j'ai trouvé dans les commentaires, c'était de dire bon, est-ce que c'est le même Cléophas que Jean? On ne sait pas, mais sans doute pas. Parce que, voilà, c'est un nom. Et quel est le sens du nom pour Luc? On ne sait pas. Luc, sur un texte pareil, où il ne prend ni Jacques, ni Jean, ni Pierre, ni... il aurait... Alors, que les gens qui sont nés là, cette semaine à Jérusalem, il y a Abilène, c'est sympa. Le nom, il n'est pas choisi comme ça. Il y a un sens. Donc, elle était... Alors, oui, donc là, il y a une affaire d'ailleurs très linguistique, comment les... Epsilon, Omicron peuvent devenir, dans certaines conditions, des Oméga. Et là, moi, j'ai Talilane. J'ai Talilane, c'est une Israélienne. Elle n'est pas chrétienne pour 3 sous. Elle n'a aucun intérêt idéologique dans la question. C'est intéressant, parce que parfois, quand les chrétiens font des articles, les gens qui ne sont pas chrétiens disent « Oui, non, mais d'accord, j'ai un léger intérêt idéologique à expliquer que... Voilà. » Talilane, elle est neutre. Et elle écrit, noir sur blanc, il est quasiment certain que c'est le même nom. Et par ailleurs, elle montre qu'il est extrêmement rare à l'époque chez les Juifs. Alors, je vous cite Baucam, il dit « Un bon exemple est Cléophas, il est très probable que c'est la même personne que Clophas, dont la femme Marie apparaît parmi les femmes au pied de la croix en Jean 19, 25. » Clophas est un nom sémitique extrêmement rare, enfin sémitique, il dit sémitique, ça, il bluffe un peu, forme du nom grec Cléophas. Voilà. Alors là, je reprends la thèse. Hein. Si rare que nous pouvons donc être certains, donc là je m'appuie sur lui, qu'il est le Clophas qui, selon Hégésippe, alors Hégésippe, vous connaissez tous Hégésippe, les historiens, moi, premier historien chrétien, deuxième siècle, 150, dont l'œuvre s'est malheureusement perdue, mais dont 10 à 15%, on ne sait pas, 10 à 1% a été repris par Eusèbe de Césarée. Ça va, Eusèbe de Césarée. L'historien officiel de Constantin, Histoire ecclésiastique en 10 volumes. Bon, alors, il n'est pas très populaire parce qu'il cire les pompes de Constantin tout le temps, donc on dit que vraiment c'est le début du christianisme qui rentre devant les empereurs. Mais enfin bon, par ailleurs, c'est un écrivain chrétien tout à fait sérieux. Enfin, ce n'est pas Saint Eusèbe quand même, hein, on ne l'a pas canonisé. Oui, enfin, il est très suspect dans l'histoire de la Bible. Voilà, il a quelques casseroles, mais c'est le premier historien chrétien qu'on a, donc on prend. Voilà. Et donc, il nous cite Hégésippe. Alors, je lâche ma première info. Cléophas était sans hésiter, doubtless, un de ses parents de Jésus qui ont joué un rôle éminent dans le mouvement judéo-chrétien de Palestine. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, qui est le premier évêque de Jérusalem? Au sens évêque peut-être entre guillemets, mais quand même. Ah, mon voisin sait. Jacques, frère du Seigneur, qui est martyrisé en 62. Et Hégésippe donne une petite ligne donc, qui pourrait ne pas avoir beaucoup d'importance, mais Hégésippe nous dit, eh bien, il est remplacé par un certain Simon, fils de Clophas, qui va rester évêque de Jérusalem. Alors là, hésitation des historiens, jusqu'à Trajan, mais soit entre jusqu'à 102, soit jusqu'à 107, pendant 40 ans. Alors pourquoi pour moi c'est un élément capital, ça, cette petite affaire, en développant l'hypothèse, c'est que quand Luc écrit son évangile en 95, eh bien, Simon, fils de ce monsieur qui a eu cette apparition à Jérusalem, c'est l'évêque de Jérusalem. Donc, le souci de Luc, c'est un souci ecclésiologique. Luc, c'est un fils de Paul. Pourquoi Paul est mort? Paul est mort en apportant beaucoup d'argent à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il avait promis 10 ans avant, Galate, il dit, je me souviendrai, il avait donné la main droite à Jacques, Képhas, Simon-Pierre et Jean, en disant, ok, on se reconnaît mutuellement nos missions et nos charismes respectifs, je me souviendrai des pauvres de Jérusalem. Et donc, pendant des années, ils collectent beaucoup d'argent. Pas un petit chèque de 2000 euros, hein. Ils sont 12 mecs costauds qui portent l'argent, il amène une somme considérable, et il risque sa vie, puisqu'il dit aux Corinthiens, non, j'enverrai des gens munis de lettres à Jérusalem, portez votre offrande. Puis à la fin de Romains, il dit, finalement, je vais y aller moi-même. Romains 15, il y a un passage que personne connaît, mais qui est à mon avis le plus pathétique, le plus révélateur du cœur de Paul. Donc, il dit que j'ai le vif désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. Alors, bon, quand on est à Corinthe et qu'on veut aller en Espagne, Jérusalem, c'est pas tout à fait sur la route. Bon, maintenant, je me rends à Jérusalem pour le service des saints. Bon. Mais je vous le demande instamment, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de l'Esprit-Saint, combattez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi. Une forme extrêmement solennelle, c'est rare chez Paul. Combattez par vos prières. Afin que quoi? Il faut prier pourquoi? Afin que j'échappe aux incroyants de Judée, alors les incroyants de Judée, c'est les juifs non chrétiens de Judée, et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit acceptée par les saints. J'arrive avec 20 millions d'euros, ils vont refuser? Ben oui, ils peuvent refuser. Ils peuvent refuser parce que accepter l'argent, ça veut dire qu'on est en communion avec ceux qui envoient l'argent. Donc, j'aime prendre l'exemple, vous savez, du financier de la campagne de M. Trump et de M. Bibi Netanyahou, à savoir Sharon Adelson, qui vient de mourir, on pleurait beaucoup, donc un des plus grands milliardaires juifs américains. Quand je dis des sommes, c'est des sommes considérables, c'est des dizaines de millions d'euros dans les deux campagnes. Et comment il a fait fortune, M. Adelson? Casino de Vegas et l'activité annexe autour des casinos, si vous voyez ce que je veux dire. Alors vous avez une école rabbinique à Jérusalem, vous dites, je l'accepte le chèque de M. Adelson ou pas? Si vous êtes un rabbin qui dirigeait une yeshiva ultra-orthodoxe à Jérusalem, vous ne pouvez pas accepter cet argent. Si ça se sait dans la communauté que vous avez accepté l'argent, les gens vont dire, tu fais tourner ton école à Jérusalem avec l'argent de la prostitution des États-Unis. Alors on dirait, quel rapport? Ben, les judéo-chrétiens à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils disent? Mais Paul, il est à Corinthe, Corinthiazène. que ça veut dire Corinthiazein en grec, prostituée. C'est le plus grand port, la plus grande prostitution. Vous avez des païens là, impurs, ils donnent de l'argent. Mais on s'en fout. Comment on va accepter cet argent qui vient de la prostitution à Corinthe ou à Philippe? Deux gens, on ne sait même pas s'ils sont circoncis, s'ils pratiquent la cacheroute, s'ils sont un peu sérieux sur leur vie religieuse selon la Torah. Alors Paul, s'il envoie Tite, Timothée, Aristarque, tous ses seconds couteaux, ses fils qui sont prêts à mourir pour lui, à se faire couper en quatre, il n'y a pas de doute, mais les gens, ils vont se retrouver à Jérusalem, là, le petit Tite, le petit Timothée, le petit Aristarque, hein, des pagano-chrétiens, des demi-juifs, et avec des vieux judéo-chrétiens. Il dit, voilà, on amène, Paul avait promis qu'on ne veut pas le savoir dégager, vous êtes des pagans, on ne veut pas l'accepter. Oui, non, mais c'est, non, vous savez, ça fait des années, enfin, on vous aime beaucoup, puis on voudrait vraiment que... Non. Alors là, Paul comprend qu'il ne peut pas courir ce risque, parce que si cet argent est refusé, ça veut dire que ces églises sont des chrétiens de second rôle, qui ne sont pas vraiment reconnus comme chrétiens. Ça veut dire que l'église est coupée en deux, donc il y a un problème ecclésiologique. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens de première et de deuxième catégorie. Ça veut dire que ces 20 ans de mission, les milliers de baptisés qu'il a fait, comme il dit à Galates, ça sera Eiskenon, pour du vent. J'aurais couru pour du vent. Nos frères protestants disent, mais comment? Tu es le plus grand apôtre de la chrétienté. Tu as converti le gouverneur de Chypre, Sergius Paulus, le gouverneur, l'économe de Corinthe, Eraste, ça lui est dans Romains 16. Tout le monde antique sait qui est Paul de Tarse, que c'est l'apôtre chrétien le plus brillant, le meilleur rhéteur, qui a une culture grecque, c'est un type qui vient du top 0,1% de la société. Oui, à la différence des Galiléens. Paul, tout le monde sait qui est Paul. Et comment tu peux dire que si Pierre ne te tend pas la main droite ou Jacques à Jérusalem, tu auras couru pour rien? Des milliers de gens sont devenus chrétiens, ont été baptisés grâce à toi. Paul va répondre, les amis, mais si ce baptême n'est pas reconnu par les judéo-chrétiens de Jérusalem, si on regarde de haut mes chrétiens, si on leur dit, il faut que vous fassiez, non, mais Paul, vous savez, c'est 1.0 maintenant, ah ben non, il faut la circoncision, il faut le shabbat, il faut la cacheroute, il faut tout ça, ah, il faut être sérieux. Non, Paul, il est sympa, vous savez, il veut fuir la persécution, tu peux, pardon, moi, Paul, fuir la persécution, vous plaisantez? Non, mais bon, c'est un christianisme un peu cheap. C'est ça qu'on dit de Paul. C'est ce qu'il dit en Romains 3.8, on dit que voilà, la grâce surabonde, il est laxiste, Paul, au plan moral. Moi, Paul, je prêche la sainteté. Bon. Donc tout l'enjeu apostolique de la vie de Paul se joue sur ça, sur l'accueil de la communauté de Jérusalem. Et donc, vers la fin de sa vie, il écrit la lettre aux Romains. Donc en gros, il dit aux Romains, un petit détail, il dit aux Romains, voilà, je vais passer chez vous 15 jours, vous allez m'aider à trouver le chemin de l'Espagne. Bon, l'Espagne, ça ne sera pas dans un couloir quand même, je veux dire, bon, même, il n'y a pas besoin de passer par Rome d'ailleurs. Bon, bon. Et pour partager avec vous quelques repos, partager notre foi commune à vous et à moi. Et puis il écrit ce chapitre, c'est-à-dire, pour avoir une chambre 15 jours, c'est un petit peu surdimensionné quand même. Donc il fait un résumé complet de toute sa théologie de manière très posée, très calme. Là où il mettait 4 versets dans Galates, il en met 15. Là où il mettait 3 versets dans Corinthiens, il en met 15. Et pourquoi? Alors là, je reprends, moi je suis un disciple là-dessus de Günther Bornkam, les années 60, Paul de Bornkam, il dit, mais en fait, la lettre aux Romains, le véritable destinataire, ce sont les judéo-chrétiens de Jérusalem. Paul écrit la lettre, alors je vous fais, je reste en hypothèse, hein, vous avez le droit de, on n'est pas dans du certain. Vers l'automne 57, on est en septembre 57 à Corinthe, peu avant ce qu'on appelle la fermeture de la mer en Méditerranée, c'est-à-dire qu'en Méditerranée, ceux qui étudient la Grèce le savent, c'est-à-dire que du 1er novembre, 1er octobre, 15 octobre, 1er avril, à cause des tempêtes, il n'y a plus de trafic commercial. Donc, il envoie sa lettre via Phébé, la femme qui est responsable de l'église de Saint-Cré, à Rome. Or, quelle est l'unique ligne maritime impériale qui fonctionne toute l'année, où il y a des bateaux qui font toute l'année Rome, Alexandrie, Césarée, Césarée, Alexandrie, Rome, c'est la ligne Rome, Césarée. Donc, l'idée de Bornkam, c'est que Paul écrit cette lettre, en réalité, le véritable destinataire, c'est la communauté, c'est les judéo-chrétiens de Jérusalem. Où il leur dit, beaucoup de rumeurs circulent sur mon compte, jugez-moi sur ce que je dis vraiment. Trois accusations. Tu es laxiste au plan moral, comme certains m'accusent outrageusement de le dire. C'est pas vrai, donc regardez ce que je dis dans Romains 12, 15. Deuxio, c'est un subversif. C'est un révolté, c'est un excité. Il a été en prison d'ailleurs, Éphèse. Donc Romains 13, 1 à 7, ce qui est dans aucune lettre avant. Payez vos impôts, obéissez aux vos magistrats, traversez dans les clous. Moi, je suis un bon citoyen.
Et
exactement. Troisième accusation capitale, la plus grave, il écrit Romains 9 à 11, comme Luc le raconte dans les Actes 40 ans plus tard, voilà l'homme qui parle partout contre la loi, contre le peuple et contre ce temple. Il a trahi son peuple, il vit avec les païens, il oublie Israël, il renie son peuple. Donc Paul écrit Romains 9, 1 à 5, pour dire, moi, Je dis la vérité dans le Messie, je ne mens pas. J'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur. Je souhaiterais être moi-même maudit, séparé du Christ. Il vient dire, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ça va. Maudit, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de mon peuple selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent la filiation, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, les patriarches, de qui le Messie est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Dit Paul, moi, oubliez mon peuple, mais je prie tous les jours pour mon peuple. Et proposition majeure de Romains, l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ben, c'est clair, le salut de quiconque croit, homme, femme, esclave, homme libre, juif, grec. Non, il précise, le juif d'abord, puis le grec. Moi, je n'oublie pas que le Messie d'abord, Messie d'Israël d'abord. Il n'y a pas de souci. Donc, Luc est un fidèle de Paul. Quand il écrit son évangile et les actes, il fait autre chose que Paul. Donc, ce que Paul a dit dans ses lettres, il ne va pas le répéter autrement. Vous regarderez que, même le discours de Milet, il n'y a aucune reprise verbatim de ce que des lettres de Paul. D'ailleurs, on ne voit même pas Paul écrire une lettre dans les actes. Bon, il fait autre chose, Luc. Mais fondamentalement, c'est un fils de Paul. Le juif d'abord, puis le grec, on entend ça 7-8 fois dans les actes. Hein, à Antioche de Pisidie, les juifs d'abord, puis les grecs. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Et quand Paul arrive à Jérusalem, à la fin des actes, il y a Jacques qui lui dit, bon, alors on a quatre hommes ici qui ont fait un vœu, tu vas aller avec eux, tu vas faire ceci, tu vas apporter, payer, machin, tu vas aller au temple avec eux. Et puis Paul, comme un petit caniche, il suit. Il dit rien, il fait tout comme on lui dit. Luc dit, mais voilà, Paul, il a voulu être en communion, il a été réglo. Donc, vous dites à Jérusalem, vous vous revendiquez d'apparition spécifique. Il y a eu la grande apparition de Jésus à Simon-Pierre. J'en parle, il est apparu à Simon. Fin de Luc 24. Et puis, vous me dites, par écho, je sais que, enfin Luc sait, que Simon, fils de Clophas, dit, mais Jésus-Christ ressuscité est apparu le jour de Pâques à mon père Clophas sur la route d'Emmaüs. Ah, Luc dit, chiche, et je vais vous la raconter, mais alors d'une manière, les amis, vous n'avez rien vu. Hein. Bah, je vais vous la faire, hein. Mais alors, total, grand jeu. Mais, voyez, pas uniquement pour nous donner, et c'est aussi pour ça, pour nous donner cet exemple extraordinaire, à quoi ils le reconnaissent à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie, qui est le lieu fondamental de reconnaissance du Seigneur ressuscité, très bien, mais avec ce Cléophas, en disant, ok, je vais... Alors le camarade Luc, il sait qu'il va nous raconter trois fois après Jésus ressuscité qui apparaît à Paul dans les actes. Donc, un pour vous, un pour nous. Hein. Non, mais voilà, c'est... Donc, nous reconnaissons l'apparition à Cléophas, nous reconnaissons l'apparition à Simon-Pierre, et si on l'avait interrogé, nous reconnaissons l'apparition à Jean l'Ancien. Alors ce Jean l'Ancien d'ailleurs, vous avez la finale de Jean, pour revenir un peu sur ce bonhomme un peu étrange. Alors, Luc et Jean, ça, ils ont le même feu d'artifice. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est le même. Dans Luc, c'est Luc 24, Cléophas et son compagnon. Dans Jean, c'est la pêche au bord du lac, en Jean 21. Cette scène merveilleuse, où nous avons combien de disciples? 12, 11, 7. Qui s'appelle? Qui est au bord du lac? Allez-y. Pierre, Simon-Pierre. Voilà, un peu catholique quand même, mince. Simon-Pierre.
Les deux fils de Zébédée.
Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, on les connaît bien depuis le début. Non, pas mentionné. Thomas. Philippe. Attendez voir. Non, pas Philippe. Thomas. Thomas. Et Nathanaël. Non. Non, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire Thomas appelé jumeau, et Nathanaël. Et deux anonymes, même technique que Cléophas, un anonyme. Et Nathanaël, il fait partie des 12? Ben non, on l'a oublié depuis le chapitre 2, Nathanaël, de Cana en Galilée, qu'est-ce qu'il fout là? Bon, c'est le même point de Jean. Il dit, attendez, aux gens qui disent les 12, ils disent, les amis, ok, nommez les 12, on respecte. Simon qui a une mission, Simon-Pierre, Képhas, le roc, Simon fils de Jean, il n'y a pas de souci. Paul va le reconnaître aussi dans Corinthiens. Il est apparu en premier à Képhas. Non, vous voulez qu'on reconnaisse que... Vous voulez qu'on soit catholique, il n'y a pas de souci. Le pape, Képhas, on reconnaît. Maintenant, les amis, je suis désolé, mais il n'y a pas que les 12 qui ont été apôtres. Il n'y a pas que les 12. Ben, excusez-nous, mais il n'y a pas que les 12. Alors d'abord, les 12, en fait, c'est quand même les 11. Excusez-nous, mais techniquement, ils sont 11. Bon. Et par ailleurs, il y a Apollos, reconnu comme apôtre par Paul dans ses lettres, bon, c'est contesté par personne, Paul salue Andronicus et Junias, apôtres éminents qui ont appartenu au Christ avant moi. Alors, Paul, on pense que c'est 33-34, Jésus est mort le 7 avril 30, donc les mecs, ils sont apôtres entre 30 et 33, et on écrit vers 54-55, donc c'est vraiment des apôtres. Donc, il y a Jacques, frère du Seigneur, Cléophas, Simon, il dit, mais bon, il y en a d'autres. Donc, vous voyez, c'est un jeu de reconnaissance mutuelle, où on fait de gros efforts des deux côtés pour se reconnaître. Alors, là-dessus, je suis obligé de dire un mot quand même de l'affaire Matthias. Alors, ça, c'est une affaire, question que moi j'avais depuis l'âge de 14-15 ans. Parce que, bon, vous savez, Jésus leur dit, les amis, vous allez recevoir très bientôt l'Esprit Saint qui va venir sur vous et vous serez mes témoins aux quatre coins du monde. Il arrive. Et là, avant même la Pentecôte, Pierre, il se précipite pour remplacer Judas par une procédure complètement bizarre, d'ailleurs. On en sélectionne deux sur quel critère ? Pas clair. Après, on tire au sort dans la Bible. Quand vous regardez les tirages au sort, c'est des très très mauvaises idées. Ça finit toujours très 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 très, très mal. Bon. Donc, puis alors, loi des primary effects en littérature. Je commence mon roman policier, chapitre 2. Nous vous présente le commissaire Dupont. Puis après, le chapitre 2. Alors, j'ai un chapitre sur le commissaire Dupont. Après, plus rien dans le récit. C'est quand même curieux. Quelle histoire ? Donc, Matthias, voilà, le roulement de tambour, le 12e apôtre, choisit Matthias. Rôle de Matthias dans la suite du livre. Zéro. Mais pourquoi Pierre se précipite à remplacer Judas avant même l'Esprit ? Attends d'avoir l'Esprit Saint, ça pourrait peut-être aider, non ? Enfin, de ce qu'on pense de l'Esprit Saint, c'est un truc un peu utile quand même pour faire des choix. Donc, c'est bon, ça va, Jésus vient de dire, ça va arriver. Donc, on ne se précipite pas. Et, alors, là, je parodie un chercheur anglais, qui est sorti, Alan Bell, qui a sorti cette thèse il y a 4-5 ans, que j'ai trouvé passionnante, entièrement sur cette question, mais qui ne nous éloigne pas de Cléophas en réalité. Qui dit, le 12e apôtre. Le 12e apôtre. Jésus, il va le choisir lui-même, personnellement, sur la route de Damas, cet apôtre, c'est Paul, c'est lui le véritable 12e apôtre, et ça va être le récit, le héros de toute la fin de l'histoire. Alors, il est en communion avec Pierre, je vais vous raconter des choses sur Pierre, pas de souci, mais franchement, votre histoire de Matthias, donc, alors là, vous avez deux hypothèses. Soit vous dites Matthias, c'est complètement inventé. Il n'y a aucune source chrétienne, dans aucune lettre, dans aucun historien, rien ailleurs sur Matthias. Donc si le mec a été choisi aussi solennellement, en tout cas, ça a été un pchit, mais alors total. Il a raté une marche, il s'est cassé la jambe le mois d'après, il a eu le Covid, il est mort, boum. Exit. Il est quand même curieux. Première manifestation, vous voyez, Képhas dit bon. Alors on a envie de dire, Képhas, ça serait bien que tu attends l'Esprit Saint, j'ai dit, mais bon. Très bien, c'est quand même Simon-Pierre, il a une mission qu'il a reçue en Galilée. Bon. Donc tout un appareil pour dire, bon, ça va être Matthias. Ben non. Là-dessus, Matthieu est plus honnête. Comment ça finit, Matthieu 28 ? On ne mesure pas assez le choc que c'est ça. C'est un gros critère de Matthieu, il dit, ils sont 11. Voilà, ils montent sur la montagne, ils sont 11. T'inclines devant Jésus avec cette phrase merveilleuse et certains eurent des doutes. Mais Matthieu, quand même, les 11 apôtres, nous on est des pauvres petits chrétiens persécutés. Tu nous dis que les apôtres, là, les grands, les nous, on repose sur eux, ils ont eu des doutes. Et alors nous, on n'en aurait pas ? Bon. Matthieu dit oui, eux-mêmes, ils ont eu des doutes. Donc arrêtez d'idéaliser les apôtres, c'était des gens comme vous. Voilà. Ils avaient peur comme vous, ils avaient des doutes comme vous. Là, il y a une exégète américaine, Elizabeth Strusser Malbon, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle En compagnie de Jésus, qui est très très bon. Elle montre, dans l'évangile de Marc, c'est quand même marrant, dans l'évangile de Marc, les apôtres, mais ils sont nuls, ils ratent tout, ils ne comprennent rien. Ils sont obstacles entre Jésus et les gens, mais c'est vraiment, etc. Et puis les gens qui rencontrent Jésus une fois, 5 minutes, Zachée, Bartimée, les anonymes ou les pas anonymes, les gens qui rencontrent Jésus une fois, alors eux, paf, ils ont toute la médaille d'or. Et alors, c'est quand même curieux à force. Et alors, elle a cette idée que je trouve assez géniale, elle dit, mais en fait, les évangélistes, ils déminent ce terrain, cette tentation permanente des chrétiens de dire, bah oui, nous on vient après, nous on n'a pas connu Jésus, on n'a pas pris de petit déjeuner au bord du lac avec lui. Si on avait été en Galilée à écouter ses homélies, ah là, la vie chrétienne, ça serait facile. Les apôtres, bah évidemment, les apôtres, c'est des géants, enfin, je veux dire, ils ont triché, il y a 3 ans avec Jésus quand même, cours particulier, tout ça, bon. Nous qui sommes des pauvres types, nous sommes l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, on n'a pas vu l'ours, bon. Donc, on est les pauvres types. Et donc, Marc et Charles disent, mais non, mais arrêtez de dire ça. C'était des gens comme vous. Ils ont eu les mêmes doutes, les mêmes trouilles, les mêmes problèmes. Et vous pouvez rencontrer Jésus une fois. Simon de Cyrène, il l'a vu qu'une fois, il n'a rien vu, lui, Simon de Cyrène. Et évidemment, dans Marc, le centurion. Qu'est-ce qu'il voit, le centurion ? Il voit quelqu'un qui meurt sur une croix comme un bandit, comme un Spartacus quelconque. Et Jésus, il n'a pas fait une homélie en 3 volumes sur la croix. Hein. Et le centurion, il n'était pas en Galilée. Eh bien, summum de l'Évangile de Marc. Bon. Et donc Matthieu, il dit les 11. Voilà, Judas, alors ça c'est ce qu'on appelle le critère de l'embarras hein, en exégèse, qui fait que le fait que Jésus soit mort crucifié, le fait que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste, le fait que Jésus ait été trahi par l'un des 12 qu'il avait lui-même choisi personnellement en Galilée, c'est quand même un petit peu, on dit, bah, quand même, c'est le fils de Dieu, il pourrait savoir, non, non, finalement, non, Judas, non, non, un autre. Bon, ben, il l'a pris. Il s'est dit, du 11, c'est embêtant quand même. Il dit, mais alors, il savait pas, pourquoi, comment, bon. Donc, Matthieu, il assume, il dit, les 11, ok, ils sont 11. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que pourquoi ils sont 12? Jésus, il n'a pas choisi 12 en se réveillant matin, 12 plutôt que 6, 24, 15 ou 8. 12 parce que les 12 tribus d'Israël, ça veut dire je parle à tout Israël, je parle à tout le peuple entier, plus personne ne sait quelle tribu. Peu importe, 12 apôtres pour les 12 tribus. Mouvement collectif de renouveau de tout Israël. Donc, s'il en manque un. Un chapitre avant, Jésus a dit cette parole extraordinaire, dont on pense que c'est un logion authentique, qui est dans Matthieu et Luc, repris par la source des logiens. Je vous le dis, vous qui m'avez quitté, etc. Vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ah, mais s'ils sont 11, qui va juger la 12e? C'est pas du tout un petit problème. C'est un vrai problème scripturaire et théologique. Il faut qu'il y ait un 12e. Alors, Luc règle le problème avec Matthias. Matthieu dit, je sais pas. Je garde, à la fin, j'ai 11. Qui sera le 12e? Jésus se débrouillera, Dieu se débrouillera, l'Esprit Saint se débrouillera, il y en aura un 12e. Mais je ne sais pas qui c'est. Jean ne rentre pas dans le débat. Jean, il dit, il y a les 12, qu'il mentionne rarement, mais qu'il reconnaît. Il y a Simon-Pierre, pas de souci. Simon, fils de Jean, paie mes brebis. Après, le 12e, on verra. Alors, je reprends juste aussi pour cette affaire de légitimité à la fin de Jean, qui est quand même assez extraordinaire. Donc, cette scène au bord du lac, c'est une scène absolument merveilleuse, parce qu'elle est complètement... Le pshat, le sens obvi du texte est limpide, les enfants de 8-10 ans comprennent parfaitement, intégralement cette scène. Voilà, le grand filet, Simon-Pierre, Jésus. Et puis, il y a quand même 7 trucs bizarres. Voilà. Donc Jésus, au début, il leur dit, mes petits enfants, quand je vais au marché aux poissons, ou à Port-Paul, je ne dis pas, mes petits enfants pêcheurs, ils me disent, c'est curieux. Alors, je vais faire 8 erreurs. Premier truc, bon, ils sont censés quand même être en mission, là. Qu'est-ce qu'ils foutent à pêcher sur le lac, quoi. On va dire, les mecs, il y a du boulot, là. Bon. 3, il faut jeter à droite de la barque. En fait, c'est évidemment très important à cause d'Ézéchiel 47, mais bon, jeter à droite de la barque, en fait. 4, alors, il n'y a que le disciple que Jésus aimait qui reconnaît Jésus en premier, et il le dit à Pierre, qui le croit. C'est-à-dire qu'il croit à l'un qui n'est pas des 12. Après, on pourrait croire que c'est l'un des 12, mais disons qui n'est pas Pierre. Alors là, ce qui fait beaucoup rire les enfants, avant de se jeter à l'eau, ils s'habillent. C'est quand même, ils mettent un vêtement, c'est quand même sympa. Bon, ils nagent, ils arrivent au bord, et là, le filet ne se déchirait pas, inverse de Luc 5, et il y avait 153 gros poissons. Alors, ils disent, ouais, d'accord, pourquoi pas 154, 151, enfin, il y en avait beaucoup, ils étaient tous gros poissons, un peu curieux. Il y a 2 mots pour poisson dans le texte en grec, ictus et psaria, pour nous dire poisson, poisson, ouais, d'accord, poisson, Bible, très bien. Et ensuite, toute l'histoire, quand même, c'est que Jésus a dit « Est-ce que vous avez du poisson ?» Puis ils arrivent, et puis il y a du poisson qui rit. Mais il avait déjà du poisson. Pourquoi il demande du poisson ? Donc il y a plein de petits détails comme ça, un peu curieux. Bon, si vous voulez, je pourrais en reparler. Mais alors, la fin de l'histoire. Donc, Paul, Pierre, en vérité, je te le dis, « Bon, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, Simon, fils de Jean, tu sais tous bien que je t'aime. » Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, voilà, il fait partie du groupe d'Ilabre, le disciple que Jésus aimait. Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Bon, un peu elliptique, « Lui quoi ? Quel est son rôle ? Qu'est-ce... Bon. » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Retour à la parole du début. La rumeur se répandit alors chez les frères, donc on voit bien que là, l'auteur, on est complètement à la fin du siècle, l'auteur redécolle et parle mieux, que ce disciple ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. C'est un peu lourdingue. Bon, ça va, c'est une histoire de rumeur. On voit bien qu'on a un texte, on va dire, un peu étiologique. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la fin du 1er siècle, c'est que en 95, Pierre, il est mort depuis combien de temps ? Simon-Pierre, là, notre premier pape.
Il est mort sous Néron.
Il est mort sous Néron. Les Bibles disent entre 64 et 67. Bon, mettons 65. Ça fait 30 ans qu'il est mort. Paul a sans doute été exécuté dans la même persécution, peu après, peu avant, on ne sait pas trop. Et là, c'est très très sûr que Pierre et Paul sont morts à Rome. Bon, Jacques, il est mort en 62. Ils sont tous morts. Donc les gens disent, et ils voient ce disciple que Jésus aimait, donc sans doute ce chrétien de Jérusalem, qui était un jeune homme connu de la famille du grand prêtre, peut-être un sadducéen d'ailleurs. Il vit toujours. Et les gens disent, vous savez, Jésus lui a dit, tu vas rester jusqu'à ce que j'arrive. Puis évidemment, le gars, il va mourir. Quoi. Donc les chrétiens ont dit, non, mais attendez, Jésus n'avait pas dit ça, je vous explique. Bon. Donc il y a tout un récit qu'ils sont obligés d'inclure dans l'évangile pour dire non. Voilà. Mais la pointe, c'est que Simon-Pierre a peut-être eu une question sur ce disciple, mais au fond, ils étaient ensemble, être témoins de la résurrection. C'est ça qui compte, Nathanaël et Apollos et Paul et les autres. Donc, tant Luc que Jean représentent des communautés chrétiennes essentiellement situées en Asie mineure, se revendiquant d'un apôtre qui n'appartenait pas au groupe des douze, Paul d'un côté, le disciple que Jésus aimait de l'autre, parfois appelé Jean l'Ancien, si on suit Papias, tous deux ont dû lutter pour se faire reconnaître comme légitimes par les communautés judéo-chrétiennes de Terre Sainte, de Jérusalem et de Judée-Galilée. Tous deux tiennent à souligner qu'ils reconnaissent l'enracinement juif de la foi chrétienne, leur respect des douze et des apôtres galiléens, et leur respect des judéens, de Jacques, de Cléophas, de Simon, fils de Cléophas, donc de Cléophas. D'une certaine façon, le livre des Actes est une vaste démonstration de l'harmonie entre Pierre et Paul, et le chapitre 21 de Jean remplit à sa façon la même fonction pour la tradition joannique. Voilà. Voilà, Luc respecte en un même mouvement les pétriniens qui insistaient sur l'importance de l'apparition privilégiée à Simon-Pierre, que Paul rapporte. Oui, 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 c'est vrai, il est apparu à Simon-Pierre. Vous connaissez tous, vous avez vos propres traditions, on les respecte, je le dis. Vous voulez me dire, mais il est apparu à Simon? Oui, il n'y a pas de souci. En premier, qui d'ailleurs? C'est pas le problème. Il est apparu à Cléophas en premier, à Simon-Pierre. Le récit ne permet absolument pas de trancher. Ils arrivent à Jérusalem, il est apparu à Simon. Quand? On ne sait pas. Le matin. Et on va dire, non, mais nous, Cléophas, c'était 15h28. Hein. Et vous, Simon-Pierre, 16h02, hein, c'est nous les premiers. Non, on ne rentre pas dans ces questions-là. Ils sont tous témoins de la résurrection. Voilà. Voilà. Et les membres de la famille de Jésus qui valorisaient leur propre récit d'apparition. Voilà. Paul aussi apôtre, Paul aussi est témoin de la résurrection. Parce que là, évidemment, Paul a un gros problème. Il a été persécuteur pendant 3 ans. Et donc, comment il aurait pu connaître Jésus selon la chair, puisqu'il ne l'avait jamais reconnu? C'est pour ça que Paul nous dit, attendez, on reste calme. Donc Jésus est apparu, et puis Paul, il est très urbain, a dit, qui es-tu Seigneur? Et je lui ai dit, je suis Jésus. Ben, évidemment, parce que, vous comprenez, Simon, Pierre, Marie, Madeleine, ils le connaissent, pas besoin de dire, il est qui? Bon. Donc là, Luc prend en compte cet écart. Paul ne connaissait pas Jésus katasarka, selon la chair, donc il faut que cet homme qu'il voit dans la lumière même de Dieu, dans cette lumière éclatante, qui est la lumière même de la divinité, c'est pas seulement qu'il est ressuscité, c'est pas seulement qu'il est le Messie, il est consubstantiel à Dieu, il est dans la lumière même de Dieu. Bref, cet homme qui voit dans la lumière même de Dieu lui dit, je suis Jésus. Voilà, que tu persécutes. Voilà, Luc était un évangéliste croyant et conservateur, créatif et fidèle, conservateur au sens strict, puisqu'il reprend ce qu'il hérite de sa tradition. Et en même temps, un écrivain doué, un théologien en conviction forte, qui concilie fidélité et créativité, respect et originalité. Voilà. Luc élabore un enseignement sur la résurrection, à la fois profondément en lien avec l'écriture et existentiellement parlant. Et l'accroche, pour finir avec ça, pour prendre vos questions, l'accroche qu'il fait entre les actes et l'évangile, c'est génial. Alors d'abord, il fait un phénomène de tuilage que vous connaissez, il raconte deux fois l'ascension, à la fin de l'évangile, au début des actes. Pas pareil, pas exactement pareil, il y a des différences. Et puis donc on a Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain. Et on a Philippe et l'eunuque. Et il disparut à leurs yeux. Vous connaissez ce verset, il disparut à leurs yeux. Et puis, l'eunuque et Philippe monte, il baptise l'eunuque et il disparut à ses yeux. Quels sont les deux sacrements fondamentaux de l'Église, l'Eucharistie et le baptême? Finir sur le grec, il y a un autre détail que j'avais. C'est une collègue qui m'avait attiré mon attention là-dessus, qui est une très très grande helléniste, grammairienne en grec, Odile Flichy. Et elle m'avait fait remarquer qu'il y avait un verbe très très rare, qui ne s'emploie que deux fois dans tout le Nouveau Testament et que deux fois dans l'œuvre de Luc, qui est le verbe qui est dans Emmaüs et pour Lydie, en acte 16. Vous savez, il y a un verset qui étonne aussi les enfants, qui est un peu curieux. Jésus fit mine d'aller plus loin. Non, j'y vais, je continue, je marche encore un peu. Et alors, il lui demande, mais déjà le soir baisse, le soir tombe, et ils le contraignirent, parabiazomai, parabiazo, bias, bis, vis, c'est la force, parabiazomai, c'est contraindre par la force, c'est un verbe en fait assez fort, à rester. On dit, mais c'est Jésus quand même, Jésus, on peut l'obliger, le contraindre, c'est bizarre ce verbe. Ils l'obligèrent à rester. Alors, du coup, les traductions, sauf Luther, il faut reconnaître là, Luther est honnête, et en allemand, il garde le même sens pour les deux verbes, mais toutes les autres traductions, j'ai rempli, on va comparer quand même Jésus. Non, ils le pressèrent, ils insistèrent vivement, enfin, c'est bien, quand même. Bon. Lydie, première chrétienne d'Europe, première femme chrétienne d'Europe, Paul vient d'arriver en Europe, il arrive dans cette ville, peu de juifs, pas de synagogue. Paul, qui est un malin, sait que les juifs, dans ce cas-là, vont au bord d'une rivière pour faire leurs ablutions. Il va au bord de la rivière. Alors, petit détail pour une synagogue, je ne sais pas si vous connaissez les synagogues, en général, il n'y a pas que des femmes dans une synagogue. C'est plutôt un truc d'hommes. Bon, les femmes, elles sont en haut, chez elles. Sur... Bref, il n'y a que des femmes. Et il y a une certaine Lydie, marchande de pourpre, originaire de Thyatire, qui écouta, car le Seigneur avait disposé son cœur à écouter les paroles de l'Évangile. Et alors, elle reconnaît la foi, elle est baptisée. Et là, elle dit, elle nous dit, parce qu'il n'y a pas les marins, mais elle nous dit, « Si vous avez reconnu que je suis une fidèle du Seigneur, vous devez demeurer chez moi. » Donc, ils n'ont pas trop le choix là. Ils viennent de la baptiser, donc oui, vous êtes une fidèle du Seigneur, donc vous venez chez moi. Et elle nous y obligea, même verbe, parabiazomai, qui est très rare dans la littérature grecque, et unique, je vous dis, c'est deux cas dans tout le Nouveau Testament. Conclusion, je l'ai discuté avec Odile, accueillir l'apôtre et accueillir Jésus, c'est la même chose. Et il s'agit d'insister. Jésus, il ne va jamais s'imposer, il faut l'accueillir. L'apôtre, c'est pareil. Didaké, les 12 apôtres. L'apôtre, par exemple, là, si je vous dis, c'est gentil, bon, je vais rester une petite semaine, là, si vous me donnez un petit studio derrière, et puis, bon, pour le café, en fait, je prends un pain au chocolat, en fait, le matin. Donc la Didaké dit, non, voilà, ça, c'est des faux apôtres. Le vrai apôtre, il reste 2 jours. 3 jours si le bateau a du retard. 2 jours. Au-delà de 2 jours, c'est un faux apôtre. C'est-à-dire, l'apôtre, il reste, mais il ne s'impose pas. Comme Jésus. Il vient et ne s'impose pas. Donc ça fait partie des petits clins d'œil littéraires et théologiques que Luc fait. Et donc, pour conclure en une phrase, voilà, Cléophas, c'est pas du tout un nom laissé au hasard, c'est un nom tout à fait important qui correspond à une personne précise de l'histoire, dont la femme s'appelait Marie, dont le fils s'appellera Simon, on sera le deuxième évêque de Jérusalem. Et Luc a voulu, par ce geste, par ce coup de chapeau, par cette reconnaissance adressée à la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, valider toute l'ambition théologique de son maître Paul pour dire « Oui, nous sommes des chrétiens et fiers de l'être, baptisés, ayant la même Eucharistie que vous, et nous sommes humbles comme la syrophénicienne, et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens, c'est vrai, petits chiens. Mais le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous, pour vous et pour la multitude. Donc nous reconnaissons que Jésus est Messie d'Israël, mais il est aussi sauveur des nations, il est aussi notre Messie. Nous vous respectons, nous vous reconnaissons, nous respectons votre primauté, mais excusez-nous, mais nous sommes chrétiens comme vous. »
Merci Marc. Est-ce que vous avez des questions à adresser à notre conférencier ?
Toutes les questions sont bonnes, les réponses aussi. Explicitation, choses pas claires. Parfois, je me laisse un peu emporter.
Ah ben, la passion, le signifie, se cache derrière l'exégète. C'est
du signe. Alors, c'est quoi un apôtre, finalement ?
Alors, non, une bonne question. Il y a une combinaison de deux choses. Clairement, la légitimité fondamentale, et cela apparaît clairement dans 1 Corinthiens 9 et dans 1 Corinthiens 15, c'est d'avoir bénéficié d'une apparition personnelle de Jésus ressuscité. Personnel ou en groupe, et deuxièmement, d'assurer l'annonce du kérigme, l'annonce du message. Ça va ensemble. C'est avoir, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu le Seigneur Jésus, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? 1 Corinthiens 9 donne les 3 critères. 9-1. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? C'est-à-dire, je vous ai baptisé, ce qui montre que je suis apôtre quand même, c'est que n'êtes-vous pas mon œuvre ? Si quelqu'un dit que je ne suis pas apôtre, vous êtes vous-même la preuve que je suis apôtre, puisque grâce à ma parole, Romains 10, grâce à mon annonce, vous êtes devenu chrétien. L'apôtre, c'est quelqu'un qui annonce Jésus ressuscité et les gens se convertissent. Voilà. Alors, pour avoir plein droit pour dire le petit apôtre, il faut qu'il puisse dire, enfin en tout cas dans la première époque, j'ai été témoin de la résurrection de Jésus. Ce qui est le problème de Paul, puisqu'il n'était pas à Jérusalem pendant 3 ans. Donc c'est un problème qui a beaucoup embêté Joseph Ratzinger dans son livre, Jésus 2, où il dit, bon, bah, normalement, selon les critères même que Luc prend, Paul ne devrait pas être qualifié d'apôtre. Il ne pourrait pas être apôtre. Et pourquoi il y a Paul ? Eh bien, parce que Jésus, l'Esprit-Saint, Dieu le Père, ont décidé qu'il y aurait une exception à la règle. Et là, je rajoute du Christophe Théobald, je dis, pourquoi il y a l'exception de Paul ? Pour nous, pour notre bien. Parce que notre problème, comme j'ai un peu déjà dit, ça serait de croire qu'il y aurait les apôtres qui auraient vu Jésus ressuscité, qui l'auraient connu, etc. Et puis nous qui venons après. Parce que Paul, il a un point commun fondamental avec nous. Il n'a jamais entendu ou écouté ou vu Jésus de son vivant. Ça, c'est un point. C'est pour ça qu'il est comme nous. Il est apôtre comme les 12 et il est comme nous. Donc c'est le chaînon manquant.
Il y a le même problème théologique dans Saint Jean, d'ailleurs. C'est marrant, moi, j'aime beaucoup aimé ta conférence. Et que les affinités,
fortes entre Luc et Jean.
Entre Luc et Jean, ça on le sait, mais de dire que à partir de deux points de vue différents, hein, parce que
complètement.
Le c'est pas le point de vue du disciple, mais de dire hypertrophier la figure des apôtres, c'est saper le moral des troupes, c'est dire mais si vous n'avez pas eu la chance de prendre le petit déj avec Jésus, vous valez rien.
Ouais.
Alors chez Saint Jean, c'est même explicite, hein, puisque c'est.
Vous ferez des œuvres plus grandes encore.
Ah, vous ferez plus grandes, puis surtout, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux, c'est.
Ceux qui croient sans
voir. Et puis la prière de Jean 17 aussi.
Absolument.
Et puis, dans le tombeau vide, donc même le disciple, en fait, on a soin de la figure tutélaire qui a eu l'apparition. On dit, mais en fait, il a commencé à croire avant de voir le ressuscité. Donc c'est exactement le même problème. Ouais.
Et Marc, comment il fait Marc ? Alors ça, c'est du génie. On le commente beaucoup. Alors les Pères de l'Église avaient un peu honte de Marc, on n'a aucun commentaire quasiment patristique de Marc, à part le pseudo-Jérôme. C'est Marc, vous savez, il finit son évangile, hein, donc le jeune homme, il y a un jeune homme hein, qui fuit tout nu là, en laissant son drap, ça fait beaucoup rire les enfants aussi, et puis ce même Néaniscos, il revient, c'est deux seules fois, et puis il est là dans ton groupe, il dit Jésus le crucifié, il n'est pas là, il est en Galilée, allez dire aux apôtres. Et les femmes furent tremblantes et toutes peureuses, là, et elles s'enfuirent, et elles ne disent rien à personne, car elles avaient peur. Allez, quand même Marc, on ne peut pas finir peur des femmes. Alors, on finit un évangile en disant il faut buntogar, quoi, et en effet elles avaient peur, c'est pas possible. Mais c'est génial, en fait. Depuis 30 ans, alors là, catholiques, protestants, allemands, français, tous les gens qui ont passé 15 ans sur Marc, ils disent « Marc, vous les finir comme ça ?» Et pourquoi c'est puissantissime ? Ça veut dire ces femmes, elles ont parlé, c'est-à-dire elles ont surmonté la peur. C'est quoi l'évangile ? C'est surmonter la peur. Si vous, vous êtes là, à Rome, en 65, pété de trouille, dans la maison de Narcisse, alors qu'il y a votre cousin et votre oncle qui brûlent au coin de la rue parce que Néron est en train de se déchaîner, ben, il faut imaginer un peu, hein. C'est ça que j'ai aimé dans le film sur Paul, là, qui n'est pas américain, qui n'est pas génial, mais au moins, on dit, oui, les premiers chrétiens étaient persécutés, mais enfin, c'est, je veux dire, il faut voir, enfin, vous êtes mère de famille, vous avez vos enfants, vous, qu'est-ce que je fais ? Je prends le bateau, j'apostasie, je vais me mettre dans un temple, non, non, moi, chrétienne, jamais, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Bon, comme on a vu dans Silence, vous avez vu Silence, avec les chrétiens japonais, parce que vous êtes torturés, c'est terrible. Donc ils sont pétés de trouille, les types, quand ils écoutent l'évangile de Marc à Rome en 67. Et Marc leur dit, mais elle aussi. Mais les apôtres aussi, ils ont eu peur. Elles aussi, elles ont eu peur. Elles ont surmonté cette peur. Parce que c'est quoi l'évangile ? C'est surmonter la peur. Et c'est parler. Donc elles ont transmis le message. Et les apôtres sont allés en Galilée, vous êtes là pour l'écouter. Donc ce qu'elles ont fait, vous pouvez le faire. Ce n'était que de faibles femmes, etc. Eh bien, regardez la force des faibles femmes. Voilà. Donc, ce qu'elles ont fait, vous pouvez le faire. Donc, là aussi, et puis ça fait de la suite de l'évangile, encore l'évangile. C'est-à-dire que ça finit sur... ça continue. C'est, quand on y pense, c'est génial. C'est la même idée de ouais, pas il idéaliser.
Problème, voilà. Il n'y a pas le problème de reconnaissance mutuelle. Hein. C'est d'ailleurs oui. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'apparition du ressuscité.
Voilà.
Si on s'arrête là.
Ça, c'est la grande question de Marc. Hein.
Alors, j'ai vu une main se lever.
Oui, alors oui, prenons les questions du peuple.
Non.
Mais toutes les questions sont bonnes, vous n'avez pas de questions. Vous êtes des étudiants brillants. Les étudiants brillants, ils ont des questions.
J'ai pas une question, j'ai une remarque qui va tout à fait dans ton sens. C'est que, il me semble que c'est dans la communauté du disciple bien-aimé que Brown, qui a toujours soin, un peu comme tu as fait d'ailleurs pour Luc, de dire, mais Luc, il va amplifier des choses qu'il a trouvées chez Marc. Et en fait, Brown fait souvent la même chose en disant, mais le lien entre les gens et les synoptiques, peut-être pas la tradition littéraire, mais la tradition orale. Et lui, il me semble qu'il dit que dans justement le retour d'Emmaüs, quand les gars arrivent et ils n'entendent même pas le temps de parler, on leur dit c'est bien vrai.
Il est apparu aussi.
Il est apparu à Pierre. En fait, cette apparition-là, c'est celle qui est racontée en Jean 21. qui sera une espèce de clin d'œil à fabriquer, de dire en fait, c'est bien dire que ces deux apparitions, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais ça serait une manière de dire que Jean, ou plutôt disons ça comme ça, peut-être que ce que tu dis là, le rédacteur, donc celui qui a écrit Jean 21, l'avait compris.
Oui. Alors,
C'est juste un souvenir d'une petite contradiction de mes souvenirs. À la fin de Marc, justement dans la synthèse après de les empereurs, il dit si mes souvenirs sont bons, il a paru à deux disciples qui allaient en chemin.
Oui.
Ceux-ci revinrent à Jérusalem, mais ne convainquirent pas les deux.
C'est ce qu'on appelle la finale canonique. C'est-à-dire que
littéralement,
c'est pas du
tout. Oui, non, mais il le sait, mais peu importe. Le point qu'il dit, c'est qu'il n'insisterait pas sur l'apparition à.
Il y a une phrase sur.
Parfaitement.
Ne convainc pas les apôtres. Alors qu'on leur dit avant.
Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus. C'est vrai qu'il y a.
Alors qu'on leur dit, mais si, vous l'avez fait.
C'est bizarre. Non, c'est une très judicieuse remarque, c'est-à-dire parce que le combat continue à faire rage sur la finale canonique. Il y a notamment des protestants américains qui continuent à défendre soit l'authenticité martienne de la finale longue, ce qui est quand même, faut se lever de bonheur, mais enfin, tout est possible en littérature. De fait, un argument comme ça est une pièce au.
Mais est-ce que Luc ne le suggère pas un petit peu, mais c'est bien dans la manière lucanienne, c'est qu'il ne raconte pas les choses, mais comme il ne les laisse pas raconter l'histoire.
C'est ça. Ce qui compte, c'est qu'il est apparu et c'est
pierre. On ne leur laisse pas raconter l'histoire. Mais du coup, là, il y aurait peut-être l'idée, effectivement, qu'à l'époque de la finale canonique,
on pensait que c'était.
Luc n'a pas réussi à convaincre, en fait. Il a voulu faire des efforts avec Cléophas, ça veut dire contre les partisans de Jacques, contre les ébionites, enfin, les judéo-chrétiens
de Jérusalem.
Ouais. Et les disciples et les pauliniens,
ça continue à friter. Ce qu'on sait.
En disant, oui, il est déjà apparu à Pierre. Les rédacteurs de la finale martienne imaginent qu'ils n'ont pas cru les disciples de Moïse en disant non, il a parlé à Pierre, il n'est pas parlé à vous.
Absolument, Bidjouk, comme on dit à Jérusalem, exactement. Et alors, ça met le doigt sur, parmi les questions absolument merveilleuses, colossales de l'exégèse, où on est un peu dans le débat depuis le début, est-ce que Jean connaissait Luc? Est-ce que Jean connaissait les synoptiques? Alors moi, je suis de plus en plus convaincu que oui. Il fait autre chose. Donc, il est dans le contrepoint théologique. Il est et mon argument d'analogie, c'est de dire, on est certain que Luc est un paulinien. Alors moi, celui qui me dit Luc ne connaissait pas les lettres de Paul, je me suis dit Daniel Margarin, je dis quand même, il écrit 40 ans après, c'est un paulinien, il ne connaît pas les lettres de Paul, les collections de lettres de Paul qui ont été faites, bien sûr qu'il les connaît. Il dit, mais pourquoi il ne les cite pas, pourquoi il n'en parle pas dans les actes? Parce qu'il fait autre chose, pourquoi voulez-vous que je recopie du papier pour voir mettre quelque chose que vous avez déjà. Avec ce que ça coûtait, même s'il a des moyens. Donc ça veut dire qu'il veut faire autre chose. Et je pense que l'évangéliste Jean veut exactement faire autre chose. Donc l'exemple que je prends toujours, c'est le jeudi saint. Tous les chrétiens savent, ça fait 60 ans qu'ils vont à la messe le samedi soir, le dimanche matin, ce que Jésus a fait et dit son dernier repas, avec le pain azim et le vin de la fête des azim. Tout le monde le sait. Donc on attend Jean, là voilà, on a trois récits, il dit bon Jean, non, rien. Rien gonflé. Lavant des pieds. Non mais le repas quand même, j'ai eu la parole sur le pain, le vin, non. Donc, il fait une double opération, Jean, que je trouve, à mon avis, qui ne peut s'expliquer théologiquement que s'il sait qu'il y a déjà ces traditions. Premièrement, vous venez, si je puis dire, communier de manière rituelle. Si vous n'avez pas compris qu'il s'agit de se laver les pieds les uns des autres, vous n'avez rien compris à ce que ça veut dire. Donc je vous donne le sens théologique, spirituel, profond de la chose. Deuxièmement, si vous croyez que Jésus s'est réveillé, le jeudi saint matin en disant... Ah ouais, donc là, je risque de mourir demain, il faut que j'invente un truc un peu frappant, un truc, une idée, il faut que j'ai une idée, il faut que je... Un truc là, il y a le pain, ah ben voilà j'ai... Et Jean, il dit, non, attendez, vous n'avez pas compris? Donc, discours du pain de vie, Jean 6, depuis la première minute de sa vie publique en Galilée, quand il était pressé par la foule qui voulait être guéri, qu'il n'avait même pas le temps de manger, qu'il s'évanouissait, que les apôtres devaient l'exfiltrer à moitié mort, défaillant, pour qu'il aille se reposer quelques jours en décapole, le mettre dans la barque, comme il était, comme dit Marc, comme il était complètement épuisé. Et vous croyez qu'il n'était pas hostie, qu'il n'était pas pain vivant déjà, qu'il n'était pas donné à manger depuis la première minute en Galilée? Donc ce geste, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un rite, ce n'est pas un machin. C'est la logique de sa vie donnée depuis la première minute du baptême. C'est puissantissime, je trouve, de la part de Jean. Donc il réinterprète complètement en allant au sens théologique profond de la chose. Ça, vous le savez ce qu'il a dit sur le pain de main, je ne vais pas vous le redire, vous le savez déjà. Bon, donc Jean 13, 14, 15, 16, ce grand discours, il n'y a rien dans les synoptiques. Et Jean dit, oui, d'accord, mais je fais autre chose. Je vous fais parler, Jésus souverain ressuscité. Jésus ressuscité vous dit d'autres choses. Voilà. Je n'ai pas la peine qu'il vous redonne les béatitudes que vous avez déjà eues dans Matthieu et Luc. Vous les connaissez déjà. sous une autre forme. Mais bon. Ce qui est, juste finir par cette blague que j'adore de Roland Méné, qui a fait pendant 30 ans le cours sur les synoptiques à la grégorienne, donc Mathieu, Marc et Luc, il dit, dans son introduction, il disait qu'est-ce qu'un juif ? Alors, si vous connaissez les amis juifs, c'est une question qui a l'air simple, mais qui est extrêmement compliquée, alariquement, techniquement, et plein de définitions. Et alors Roland Méné disait, après toutes les réponses plus ou moins, je dis, c'est très simple. Un juif, c'est très simple. Un juif, c'est quelqu'un, quand tu lui racontes une histoire, il la connaît déjà, mais sous une autre forme. Et donc, bah, vous avez les synoptiques, voilà. C'est ça. Donc, ah oui, non, j'ai déjà entendu la blague, mais pas pareil. Donc, voilà, Jean, il fait autre chose. Et donc, Luc, quand il fait les actes, on dit, mais le pôle des actes, il est différent du pôle des lettres. Et Luc, il dit, bah oui. Moi, je vais vous expliquer autre chose. Par exemple, le pôle des lettres, il dit, je monte à Jérusalem amener de l'argent. Luc, il nous dit, poussé trois fois par l'Esprit Saint, comme Jésus, poussé par l'Esprit Saint. Parce que Luc, il dit, mais attendez, c'est pas une histoire d'argent, à la racine. Pourquoi Paul, il donne sa vie en montant, en se jetant dans la gueule du loup ? Voilà l'homme qui prêche, il est arrêté. Il sait très bien, Paul, qui risque sa vie en allant à Jérusalem, exactement comme Jésus, c'est pas un accident, c'est pas un malentendu. Jésus, en montant à Jérusalem pour cette Pâque-là, il sait qu'il risque sa vie, qu'il risque la croix. Donc c'est poussé par l'Esprit Saint, Jésus ayant durcit son visage, prit résolument la route de Jérusalem. Paul, c'est pareil. Je sais que c'est ça. Pourquoi tu ne me parles pas de l'histoire d'argent ? Mais parce qu'on s'en fout de l'argent. Oui, c'est important. Oui, c'est pour ça qu'il est monté. Oui, c'est un signe de son ecclésiologie. C'est un signe de communion. Et moi, je vous dis, c'est spirituel. C'est poussé par l'Esprit Saint qu'il est monté à Jérusalem. Donc, je vais à la racine directe du truc. Pourquoi tu ne nous racontes pas qu'il écrit des lettres ? Mais vous le savez tous. Tout le monde sait que Paul écrit des lettres. Pourquoi vous voulez que je fasse un verset en disant, à ce moment-là, Paul écrivit des lettres ? On s'en fout. Vous le savez tous. Donc, je fais autre chose. Et quand il combine, par exemple, on ne connaît que des lettres de Paul à des chrétiens. Alors je me dis, mais Paul, comment il parlait aux Grecs ? Comment il parlait aux Juifs ? Il me dit, attendez, bougez pas. Athènes, chapitre 17, voilà comment il parlait aux Grecs. Acte 13, Antioche de Pisidie, voilà comment il parlait aux Juifs et aux chrétiens en Dieu. Vous n'avez pas ça ? Eh bien, je vais vous le faire. Bon, alors quand même, il a un petit discours, acte 20, aux chrétiens. On dit, mais c'est bizarre, c'est différent. C'est une pure merveille, qui est magnifiquement analysée par le père Dupont, là, un grand exégète. Belge ou français, j'ai toujours un
belge.
Jacques Dupont, étude sur les actes des apôtres, un moine belge, une légende de l'exégèse du XXe siècle, grand monsieur. Il a écrit, quand même, un livre sur acte 20. En quelques versets, vous avez le génie de Luc, c'est-à-dire qu'il y a des petits bouts de phrases qui font allusion aux premières lettres de Paul, des petits bouts de phrases qui font allusion aux tritopauliniennes, qui sont contemporaines, d'autres. C'est un patchwork.
Je fléchis les genoux,
voilà. L'or, l'argent, les vêtements, je n'ai rien désiré de personne. On pleure, c'est magnifique. Tout le monde pleure sur la plage, on s'embrasse, on pleure. C'est pathétique. Mais il y a un truc, alors l'autre exemple, on finit aussi là-dessus, qui est génial. Ça finit comme ça. Hein. Donc il dit, voilà, il faut se souvenir des faibles. Hein. Et pérorate ce final. Et souvenez-vous de ces paroles que le Seigneur Jésus lui-même nous a dites. Fin de discours. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a plus de bonheur en français à donner qu'à recevoir. Littéralement, en grec, malheur avec l'infinitif, heureux le donner plus que le recevoir. Il a dit ça, Jésus. Et Luc, non, mais t'aurais pu mettre ça dans Luc 7, ça aurait été quand même sympa. Jésus aurait dit ça, hein, au bord du lac, en Luc 7, et Paul, à la fin de sa vie, le cite, génial, inclusion, transmission parfaite, extraordinaire. Bon. Il y a Luc quand même, c'est curieux. C'est nulle part dans aucun évangile. Un peu, quand même. Alors on dit à Luc, mais... Alors, Jérémie, ça a changé d'avis, notre ami Ratzinger, en 49-55, on dit, bon, première hypothèse, il dit, mais c'est une parole de Jésus qu'il a transmis à Jacob, qu'il a transmis à André, machin. Et donc, vers 95, à propos, j'ai une phrase sympa de Jésus, bon, personne ne la connaît, mais moi, je l'ai appris de ma grand-mère, qui elle-même la tenait de Jacob. Il a dit un truc génial, une béatitude, personne ne la connaît, cette béatitude, elle n'est pas dans les béatitudes officielles, mais c'est... Luc, en 95, il a un canal spécial pour... Bon. Donc, moi, je défends l'idée... Un autre papier que j'ai fait il y a quelques années, je défends l'idée, et d'autres, qui est de dire, Luc, il dit, bon, dans l'Esprit Saint, il dit, vous voulez toute la phrase, toute la vie de Jésus en une phrase, vous voulez tout le sens de la vie de Jésus en une phrase, c'est le don. Le donner est plus important. Jésus, il est sorti du Père pour se donner. Il s'est donné le soir, Luc 22, il prit le pain, il le leur donna en disant, ceci est mon corps, donné pour vous. Est-ce qu'ils reçoivent ? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe, les douze ? Ils ne comprennent rien, ils vont l'abandonner dans 5 minutes. Le mouvement du don, Jésus dit, donner. Toute la vie de Jésus, c'est quoi ? C'est le don. Et c'est en donnant qu'on trouve le sens de la vie, le sens de l'existence, la croix, c'est le don. Bref, vous voulez tout l'évangile en une phrase, vous voulez toute la vie de Jésus en une phrase, vous voulez tout le cœur de Jésus en une phrase, je vous le donne. C'est génial. Et il le fait avec une phrase qui est une allusion à un proverbe grec. Donc là, il y a Yann Lambrecht et d'autres qui ont travaillé ça. Bon, allez, quand même. Moi je trouve ça l'audace spirituelle de Luc, qui ne met même pas ça dans son évangile. On sait, il aurait pu. Tout, il y a plein d'échos. C'est très, très pensé, son œuvre. Il n'a pas écrit 20 ans après les actes en disant, tiens, je vais rajouter un chapitre. Non, non, non. C'est, tout est intégré. Et d'ailleurs, la décision théologique de donner le même poids en verset, le même nombre de chapitres, même plus, aux actes de Pierre et Paul qu'à Jésus, déjà, c'est très fort. L'Esprit Saint qui agissait en Jésus, il agit dans Pierre et Paul. Tout autant. Jésus guérit un mort, ressuscite un mort, Pierre aussi, Paul aussi. Jésus guérit un paralytique, Pierre, Paul. Jésus, les gens touchaient son manteau et ils étaient guéris. Pierre passait, l'ombre de Pierre, quand Pierre passait à Jérusalem, l'ombre de Pierre guérissait les malades, extraordinaire. Paul, les mouchoirs qui avaient touché Paul guérissaient les malades. C'est, donc la puissance charismatique, il met au même niveau. Voilà. Donc ça, c'est très très fort. Donc il dit, voilà, ils ont aussi donné leur vie. Alors, il ne raconte pas la mort de Pierre et de Paul, mais clairement, ils ont une vie. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, il n'est pas tellement moins grand non plus. Jean va aller dans son salon pour un problème, vous ferez des œuvres plus grandes encore. Donc, voilà, il y a une liberté. Par exemple, aussi, je vous ai parlé de ces trois récits, il raconte trois fois l'appel de Paul. C'est bon, on a compris, il y a plein de différences. Premier récit, il y a Ananie, troisième récit, il n'y a plus Ananie. Là, on voit, là, on entend, on dit, bon, Luc, quand même, make up your mind, quoi. On entend, on voit, c'est quoi, hein? Bon. Donc, alors Jésus, alors, ça commence pareil, toujours, Shaoul, Shaoul, en araméen, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi deux fois? Quatre personnes dans la Bible sont appelées deux fois par leur nom. Et seulement trois dans tout le Nouveau Testament. Simon, Simon, Satan vous a réclamé, Simon. Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Et Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Bon, ça, c'est une affaire juive que Rashi commande sur Genèse, Abraham, Abraham, Genèse 22:4. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un deux fois par son nom, c'est un signe d'amour et de tendresse. Très, très fort. Donc, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu?
Samuel,
Samuel. Samuel, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse. Bon. Là, premier récit, deuxième récit, troisième récit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Puis là, on a une citation des Bacchantes de Ripide, que je ne comprenais pas quand j'avais 15 ans, il était dur de regimber contre l'aiguillon. Le regimber, aiguillon, c'est histoire. C'est une citation des Bacchantes de Ripide, c'était devenu un proverbe de la littérature grecque, ça veut dire, c'est Jonas, c'est-à-dire, Dieu te dit d'aller à gauche, t'essayes d'aller à droite, t'inquiète pas, tu vas finir par prendre à gauche. Ça ne sert à rien de se révolter contre la volonté des dieux. Donc il y a Paul, voilà, tu t'agites, là, tu persécutes, tu cherches pas. C'est dur de regimber contre les mains. Ce à quoi mon maître, Jean-Marie Lévitil, on dit, mais quand même, Jésus, il... Ben voilà, Jésus ressuscité connaît les tragédies grecques. C'est comme ça. C'est comme ça, nous dit Luc. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit lors du premier récit? Mais parce qu'on s'en fout, parce que ce n'est pas le problème. On n'est pas des fondamentalistes. Moi, je vous fais un truc, je ne vais pas vous dire... Du verbatim, ce n'est pas la question. Autre exemple, quand même, colossal. Une phrase que tout le monde connaît qui vient de Jésus, c'est sûr et certain, 99% des exégètes sont d'accord. Jésus au bord du lac, à un moment, quand il a appelé ses pêcheurs, lui le paysan, il a appelé des pêcheurs, il leur a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Phrase scandaleuse, inacceptable. Dieu ne pêche que les démons dans l'Ancien Testament. Why? Because fishing is never good for the fish, comme dit Anderson. Le pêcheur trompe pour tuer. C'est le contraire de l'évangélisation. C'est le contraire de ce que je fais Jésus. Il dit la vérité pour donner la vie. Comment on peut prendre une image? Les pères de l'Église, pendant 4 siècles, personne ne cite cette phrase parce qu'elle est inacceptable. Luc, il arrive à ça. Luc 5, il dit, non, je sais que Jésus a dit, oui, je sais. En grec, c'est pas possible. Je l'ai changé. Et il se triture les méninges. Et il va trouver un verbe homérique qui se trouve 12 fois dans la littérature grecque, technique, techniquissime, zograo, qui dit, alors zograo, attention, c'est pour un chef de guerre, faire des prisonniers de guerre tout en leur laissant la vie sauve. On n'arrive pas à traduire dans nos vies, parce que il dit à Simon-Pierre, désormais ce sont des hommes que tu zograo. Donc, captureras en donnant la vie, que tu attireras, que tu prendras en donnant la vie. Bon, mais on voit bien qu'il cherche à rendre compte de l'idée en disant, non, cette histoire du pêcheur qui avec les hameçons trompe pour tuer, c'est pas possible. Moi, Luc, avec l'Esprit Saint qui m'est donné, je dis, moi en Grèce, je peux pas. Je sais que ça vient de Jésus, je peux pas. Vous l'aurez dans Marc, vous l'aurez, très bien, vous aurez l'original. Moi, je fais autre chose parce que je parle à Eraste, je parle à Sergius Paulus, je parle aux Clémens, à des gens qui sont des sénateurs de Rome. Voilà, il faut que je fasse un minimum d'acculturation déjà. Il faut que j'explique le message biblique, le message chrétien, il faut que je l'explique un peu dans des termes qui soient compréhensibles. Donc, il y a des expressions, il faut quand même un petit peu... Là, on ne réalise pas, nous, chrétiens, on dit là, pêcheurs d'hommes. Enfin, les gens qui sont chrétiens, ils disent, mais c'est n'importe quoi. C'est les sectes qui pêchent. Voilà, ça, c'est ce que font les sectes, d'ailleurs. Elles trompent pour attirer dans un filet et pour désosser. Donc, l'image, elle est d'une... Et c'est typiquement de Jésus. Jésus, il prend... il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ben, c'est parlant, hein. Alors, Jean-Louis, il y a une porte à Jérusalem, la porte du chameau. Non, non, non. Non, on va arrêter. Parce qu'on est choqué par la phrase. Donc, on dit... Voilà, Jésus, par moment, était capable d'employer des expressions extrêmement fortes, choquantes, originales. C'était un maître de rhéteur, c'était quelqu'un qui était très très fort dans la répartie, dans le débat avec ses adversaires. On le voit avec les Sadducéens, on le voit avec les pharisiens, il était quand même très très fort. To outsmart them, hein, j'adore ce verbe américain, to outsmart them, et voilà, la pièce, bon. Mais Luc, voilà, Luc dit, bon, ben voilà, Jésus ressuscité connaît les bacchantes d'Euripide, et voilà, c'est comme ça.
Merci Marc, on va peut-être arrêter là, il y a des conclusions de semaine. C'était magnifique.